Chapitre 4. Suite. Deuxième épisode. Encore un épisode de nuit et dans un cadre aussi vague que le premier. Seulement, il me semble que le rivage est en pierre rouge et que de grands bateaux qu'on charge de cette pierre s'alignent au bord du Rhône, empêchant le Bonnardelle d'approcher. Pour descendre à terre, nous traversons de longues planches jetées sur ces bateaux. J'ai aussi la sensation que nous ne sommes plus dans le midi. La soirée est plus fraîche, le bleu de la nuit moins profond, et mon héroïne, car dans cet épisode j'ai une héroïne, n'a plus le hennin provençal au sommet de la tête, ni la coiffe comtadine à trois pièces que portait Laure de Nove, la Laure de Pétrarque, et qu'on retrouve à Orange, au Pont-Saint-Esprit et jusqu'à Montélimar. Quelle coiffure avait-elle donc sur ses cheveux noirs, la jolie fille qui servait à l'auberge où l'aspirant de marine entrait un soir, suivi de sa bande accoutumée. Après des années et des années, je le revois, ce petit bonnet d'indienne, avec les deux brides flottant en banderole derrière, la svelte et vive créature au teint de bistre, au cou découvert, à la taille élégante des filles de la vallée du Rhône. Je revois aussi la salle basse, pleine de carriers et de mariniers, dont les faces hâlées s'éclairaient en dessous de chandelles fumeuses, à même les tables empoissées. À l'entrée, des pantalons rouges, commandés par ce drôle de petit homme, le chapeau casseur sur l'oreille, son cache-nez en bandoulière, les carriers, race violente et dure, commencèrent à grogner, à s'étaler sur les bancs pour nous empêcher de nous asseoir, mais les mariniers nous firent place. Il n'y a pas de meilleur garçon que ces mariniers du Rhône, aux regards francs et pétillants comme le vin blanc de Condrieu, pays riverain du grand fleuve et dont ils sont presque tous originaires. Pendant le voyage du Bonnardelle, je m'amusais chaque jour à suivre l'existence de ces hommes remontant le Rhône à côté de nous. Assis, les jambes nues sur la mule de tête, je les voyais, guidant par des guets invisibles, la file des bêtes robustes qui allaient à la corde, d'énormes péniches chargées de tonneaux de vin et de pierres de taille. De temps à autre, celui d'entre eux qui tenait la barre commandait, d'une voix sonore, selon que l'on allait à droite ou à gauche, « Amperi, Réome !» Empire, Royaume. Ce qui, pour nos mariniers, signifie « bâbord et tribord » de l'antique appellation dont il désignait au Moyen-Âge la rive du Royaume d'Arles et celle de l'Empire d'Allemagne. Oh, la magie de ces syllabes provençales qui, depuis 600 ans, sonnent toujours les mêmes dans le vent du Rhône. Encore aujourd'hui, quand je les entends, quand la marine s'en sert toujours, c'est pour moi la même émotion et comme un agrandissement du paysage. Quelle impression ai-je dû faire ce soir-là sur tous ces braves gens avec mes airs de chérubin impertinents et mes histoires à dormir debout? Comment un de ces colosses n'a-t-il pas pris, écrasé entre deux doigts, ce moucheron fatigant, jamais en place, ne cessant de bourdonner et de tournoyer entre les tables? Sans doute ma qualité de futur officier, les récits que leur faisaient à voix basse les zouaves et les artilleurs, compagnons et témoins de mes aventures à Varna et à Gallipoli, car ils arrivaient à croire que nous nous étions battus là-bas ensemble. Toute cette légende glorieuse et menteuse dont je marchais enveloppé me donnait un prestige extraordinaire à leurs yeux. Et c'est à cela que j'ai dû de ne pas me faire casser les os avant la fin de la soirée par quelques brutal et jaloux câlineurs de la jolie demoiselle que je poursuivais d'un flirt passionné. Cette jeune fille, nièce de l'aubergiste, s'égayait infiniment de mes marivaudages, de ma petite taille, de mes airs de bambin amoureux. Je l'entendais dire au marinier en parlant de moi « Il semble un enfant de prince !» Et ses yeux clairs me regardaient avec un rire d'étonnement qui m'excitait à la poursuivre, à la taquiner, comme si elle aussi avait crié « Oh, de ce monstre !» ainsi que les petits Montpellierins. Un vrai monstre, en effet, si l'on avait pris au sérieux ma façon de lui envoyer des baisers, de lui murmurer « Que vous êtes belle, ma chère enfant, et que je vous aime !» Mais où pourrais-je vous le dire plus librement qu'ici ? Elle ne me répondait pas. Tout ce que je pus savoir, c'est qu'elle ne sortait jamais seule, et que sa chambre, la dernière allumée de la maison, se trouvait au premier étage, juste au-dessus de l'entrée de l'auberge. Et cela me suffit pour improviser les détails d'une aventure imaginée et toute menteuse. Ici, j'arrive aux aveux les plus pénibles. rien ne me serait plus facile que d'invoquer une défaillance de mémoire, un des intervalles, de ces blancs comme il y en a déjà tant dans le récit. Mais non, j'ai promis d'être sincère, et quoi qu'il puisse en coûter à mon amour-propre, je le serai. Donc, la soirée finie, le cabaret fermé, nous retournions vers le bateau en chantant une chanson de marinier que nos nouveaux amis venaient de nous apprendre. « Laissez-les passer, c'est des mariniers. Il en viendra bien d'autres du beau pays d'Anjou qui ne paieront rien et casseront tout. Eh oui, existe, et zeste, et c'est un pouf, et il n'y a pas de pouf. Et allons donc, quand t'as de l'argent, Madelon, nous t'en collerons quand nous en aurons. » Tout à coup, au moment de mettre le pied sur la passerelle, le démon enfantin de la vanité me tira sournoisement par la manche et me suggéra le plus abominable des projets. « Voici ce dont il s'agit, » dis-je tout bas à Léonce et à deux artilleurs de la garde restés en arrière avec moi. C'étaient mes deux fidèles, mes intimes, mes Kardashes, comme on dit chez nous, ceux de la bande à qui je faisais la distribution la plus large de mes saucissons d'Arles et de mes terrines d'anchois. « Voici, je suis fou de cette petite !» Et je leur confiai sous le plus grand secret, et d'homme à homme, les précieux renseignements que Léandre avait obtenus d'Hérault sur cette fenêtre, la dernière allumée au premier étage, juste au-dessus de la branche de houx qui décorait la porte de l'auberge. « Sapristi, mon officier, mais c'est un vrai rendez-vous qu'elle vous a donné !» me répondirent mes artilleurs, dont les yeux reluisaient de plaisir et d'envie. Et, me prenant chacun par un bras, « Allons-y gaiement, nous vous ferons la courte échelle. » Léon, celui qui connaissait à fond l'innocence de son pauvre petit cousin, s'épouvantait de l'aventure et faisait tout pour m'en détourner. Moi-même, à mesure que j'approchais, je prévoyais mille dangers, j'avais peur. Si son oncle nous surprenait, je ne pèserais pas plus lourd aux mains velues du cyclope qu'un petit caillou blanc dans une fronde. Mais ce qui m'effrayait bien autrement que l'oncle de la petite, elle avait la tête de plus que moi, la petite. C'était l'idée de me trouver seule avec elle. Que lui dire? Comment m'y prendre? Et les artilleurs auraient bien ri, eux qui me pensaient un précoce Lovelace, s'ils s'étaient doutés de mon ingénuité et des phrases imbéciles que je préparais dans ma tête tout en marchant. « Où allez-vous donc, mon officier? Mais nous y sommes !» me chuchota subitement un de mes compagnons. J'étais tellement préoccupé de mon personnage et cette petite ruelle était si sombre que j'avais passé devant l'auberge sans l'apercevoir. Pourtant, une lumière brillait juste à l'étage. La petite m'attendait. « Que le diable l'emporte !» pensais-je au fond de moi-même en maudissant ma bonne fortune. Mais à l'âge que j'avais alors, la vanité fait des héros. « Laisse-moi donc tranquille !» dis-je tout bas à Léonce, qui s'accrochait désespérément à mon Highlander, ainsi que j'appelais mon cache-nez. Et le plus robuste des deux artilleurs, calant sa tête contre la muraille, l'autre à califourchon sur son dos, je me hissai avec effort au sommet de cette échelle vivante, secouant au passage l'énorme branche de houx, toute pleine de poussière et de piquant. Arrivé là, je m'arrêtai un instant pour reprendre mon souffle et laisser s'apaiser mon pauvre cœur qui battait à grands coups. Rien ne bougeait dans la maison, dont la façade se dressait toute noire et rébarbative, hormis le carré de lumière silencieuse, immobile au-dessus de ma tête. Inquiet, je songeais, est-ce bien sa chambre? Mais je ne pouvais m'en assurer, mes mains seules atteignant le rebord extérieur de la fenêtre, trop étroit pour leur servir d'appui. J'avais cependant l'impression qu'une ombre passait par moments contre la vitre, que quelqu'un respirait près, tout près de moi. Si c'était la petite, pourquoi n'ouvrait-elle pas? Et si elle n'avait rien entendu, comment lui signaler ma présence sans prévenir l'oncle en même temps? Ajoutez que j'étais loin d'avoir toutes mes aises en haut de cette pyramide humaine qui tanguait, roulait sous mes pieds, comme une bouée par grosse mer. Ah, il en faut du biceps et du jarret et du courage pour faire un bon héros de roman. Deux ou trois fois, je toussais tout bas d'abord, puis un peu plus haut. Pas de réponse. Êtes-vous là, cher enfant? Rien encore. Alors, d'un élan suprême, au risque de chavirer tout mon échafaudage, je décrochai une de mes mains et parvins à égratigner légèrement la vitre. Cette fois, l'espagnolette grinça, la fenêtre s'ouvrait. C'est moi, n'ayez pas peur! murmurai-je en essayant, maintenant que mes mains avaient plus de prise, de me hisser jusque dans la chambre, jusque vers l'enfant qui n'avait pas peur. Oh non, pas du tout. « Attention !» cria Léonce, le seul de nous tous qui voyait ce qui se passait. En même temps, je me sentais harponné, soulevé vigoureusement par les cheveux, et l'oncle de ma bien-aimée, après m'avoir appliqué une gifle formidable, me laissa choir à bout de bras sur mon échelle d'artilleur qui s'écroulait en deux morceaux. Il y a une providence spéciale pour la jeunesse. 10 minutes après, je me glissais avec mon cousin dans le salon du Bonnardel, un peu moulu, mais sans rien de cassé, et si je fus long à m'endormir cette nuit-là, c'est à l'idée que mon amoureuse, pour se moquer de moi, m'avait donné rendez-vous dans la chambre de son oncle. Je trouvais la plaisanterie d'un goût douteux.